Nous arrivons donc à ces événements de la vie du Seigneur dans ce chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 1. Marc nous dit ceci, en relatant presque sans doute ce que Pierre lui a dit. Parce que dès le premier siècle, des écrivains chrétiens nous disaient que Marc avait écrit son évangile en relatant ce que Pierre lui avait dit. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem, c'est important, s'assemblèrent autour de Jésus, quelque part en Galilée. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles, parce qu'ils ont pu rencontrer des non-juifs au marché, parfois, qui sont impurs. Donc il faut bien laver les mains après avoir côtoyé un non-juif. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Ce ne sont pas des choses dans la Bible dont il est question ici, mais des choses rajoutées par la tradition humaine. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne marchent pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» Nous devons entendre une note d'accusation. Impurs. Tes disciples sont impurs. Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple, il cite l'Ancien Testament, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. » Fin de citation. Jésus continue. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Rappelons-nous qu'il dit ça aux théologiens, aux, pour ainsi dire, les pasteurs d'Israël, les responsables religieux d'Israël. Il poursuivit, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. » Mais vous, il est en train de donner un exemple concret maintenant, « Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une oblation à Dieu. » Je m'arrête juste pour vous expliquer ce détail, parce que je ne vais pas revenir là-dessus dans le sermon. Les Juifs avaient... la possibilité de faire un vœu. Et par ce vœu, ils consacraient certains biens qu'ils avaient à Dieu. Ces biens, ça ne voulait pas qu'ils leur donnaient concrètement à Dieu. Ils pouvaient les garder, même les utiliser, parfois. Mais ces biens ne pouvaient pas être utilisés pour une autre utilisation quelconque. Une utilisation commune. Donc c'était... simplement pour le service de Dieu ou leur service de Dieu, c'était corban. Et donc, parfois, des biens qu'ils auraient pu utiliser pour aider leurs parents âgés dans leurs nécessités matérielles, non, je ne peux pas vous donner ça. Je ne peux pas vendre ça et vous donner l'argent. C'est corban, tous ces biens qui sont à moi. D'accord? Et parfois, c'était une combine pour pouvoir garder des trucs. Et ne pas devoir leur donner à d'autres. Je continue au verset 12. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée. Et vous faites bien d'autres choses semblables. Ce n'est pas un cas isolé. Jésus continue. Il appela de nouveau la foule. Et maintenant, il tourne vers la foule, il les appelle auprès de lui. Donc regardez la scène. Il vient de donner un reproche cuisant aux pharisiens. Vraiment, les termes du Seigneur sont très forts. Hypocrite, vous annulez la parole de Dieu. Jésus ne mâche pas ses mots. Et maintenant, il se tourne vers la foule. Il appela de nouveau la foule et lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est rien qui du dehors entre dans l'homme, qui puisse le rendre impur. Par exemple, les nourritures. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et voilà tout ce qu'il dit à la foule. C'est parabolique. C'est pas évident sur la surface à comprendre. Mais Jésus, nous avons vu, enseigne pour une raison bien précise, comme cela, aux foules. Verset 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur? Car cela entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart, après digestion. » Il déclarait pur tous les aliments en disant cela. Donc Jésus, d'un coup, il écarte, il finit toute la loi cérémonielle alimentaire de l'Ancien Testament, en ce moment même. C'est fini. Car c'est de dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'âme impure. Alors, les enfants, c'est quoi être impur? Ah oui, on ne peut pas commencer ce sermon sans savoir, n'est-ce pas? Parce que vous avez vu que du début à la fin, tout tourne au sujet du concept d'impur. Les pharisiens commencent par là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Pourquoi est-ce que tes disciples mangent avec des mains impures? Et Jésus parle tout le long de ce qui peut rendre l'homme impur. Ok, une petite histoire passablement drôle. Peut-être, même si le sujet est sérieux, je vais commencer avec ça. Un jour, il y a quelques années, j'étais dans un train en France. Et il se trouvait que ce jour, je me retrouve dans un wagon avec que des Japonais. Et moi, et un autre homme qui était européen. Je ne sais pas s'il était français ou allemand ou quoi. Mais pas mal de Japonais. Alors, ce pauvre monsieur européen qui était dans le wagon, je crois bien qu'il a dû être peut-être un SDF. En tout cas, à un moment donné, il dormait sur le siège allongé, et à un moment donné, il enlève ses chaussures. Je vous promets sans exagération que dans quelques minutes, le wagon est devenu insupportable. J'ai senti des mauvaises choses dans ma vie. Mais tout le wagon, je vous assure, j'étais époustouflé. J'ai dû mettre quelque chose sur le nez tellement je pensais que j'allais vomir, franchement. Et je voyais ces Japonais qui se parlaient comme ça en japonais et qui faisaient comme ça, qui faisaient des gestes, oh, qui le regardaient, le pauvre monsieur qui n'a rien vu, hein, qui dormait. Et puis après quelques moments, un après l'autre, il se lève et il sort du wagon. Et moi aussi. Je ne pouvais franchement pas rester. Ça puait. Le pauvre monsieur. C'est quoi impur? Dans la Bible, le mot impur signifie impropre à rester dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas, comme pour nous dans le wagon, Dieu ne peut pas supporter la puanteur, non pas de tes pieds, parce que ça peut être drôle, mais de ton cœur. Quelle est l'impureté humaine? Vous avez vu dans la liste de Jésus, l'orgueil, le mensonge, l'égoïsme, l'immoralité, l'infidélité, et ainsi de suite. N'avez-vous jamais rencontré une personne, peut-être des adultes, vous direz que oui. Une personne qui, non pas physiquement, mais moralement, était tellement impure, était tellement orgueilleuse, que être avec cette personne, oh là là, ça me fait bondir, n'est-ce pas? J'aime pas être avec cette personne. C'est ça, impur. Impur, c'est être tellement désagréable à Dieu que Dieu ne te permettrait pas d'être dans son wagon. Maintenant, nous observons la dispute entre Jésus et les pharisiens, et puis nous allons considérer juste deux points que Jésus nous enseigne à nous aujourd'hui à travers cet incident. Donc vous avez bien compris que les scribes et les pharisiens cherchaient une occasion pour piéger Jésus, n'est-ce pas? Nous avons déjà vu dans les évangiles que les pharisiens, à ce moment-là, veulent déjà faire mourir Jésus. Ils détestent Dieu le Fils, ils détestent Dieu quand il vient en chair. Lorsqu'il s'approche et il devient proche d'eux, ces hommes n'aiment pas comment il est Dieu. Tant qu'il était loin, ils pouvaient l'imaginer dans leur tête et le déformer, ça allait. Mais lorsqu'il vient trop près, ils doivent savoir comment il est parce qu'il est là. Ils n'aiment pas ce Jésus. Et donc, ils cherchent une occasion et ils en trouvent un jour cette occasion. Donc, ils observent que les disciples sont en train de manger. Quelle bande, ces disciples, n'est-ce pas? Il y en a avec qui manger sans laver les mains. Vos parents vous permettent de faire ça? En tout cas, chez nous, ce n'est pas une question d'impureté morale devant Dieu, c'est juste une question d'hygiène. Mais pour les pharisiens, c'était une question de piété. C'était une question d'être droit devant Dieu. Ils croyaient que ces lavements compliqués, après avoir été au marché ou avant de manger, laver soigneusement et d'une certaine façon avec l'eau, c'était être agréable à Dieu. Et quelqu'un qui ne le faisait pas était désagréable, impur devant Dieu. Un jour, j'étais au marché à Chalon-sur-Saône. Je tenais un marché avec des bibles et des livres chrétiens. Et j'avais en face de moi pendant quelques semaines un monsieur qui était de notre religion, qui mettait beaucoup d'accent sur les lavements. Et ce monsieur voulait savoir ce qu'en valait la foi chrétienne. Donc, il avait une seule question pour moi. Il me dit, je ne vais pas vous dire exactement la question, mais je vous dirai au moins qu'il voulait savoir, chez vous les chrétiens, est-ce que vous vous lavez à tel moment? Est-ce que vous vous lavez après telle activité, à tel moment? C'est ça qu'il devait savoir pour savoir si les chrétiens étaient droits devant Dieu, purs devant Dieu. Je m'en revenais pas. Il ne m'a rien demandé au sujet de l'intégrité, de l'altruisme, des choses morales du cœur, mais il voulait savoir si je me lavais à tel moment. Et c'est un peu cette attitude des pharisiens. Et dans beaucoup de, je dirais plus ou moins dans toutes les religions que les hommes font, c'est ainsi. Et Donc nous voyons qu'ils amènent ça vers Jésus pour l'accuser, pour essayer de le mettre en difficulté. Par la suite, nous voyons que là, c'était une grosse erreur. Chercher Jésus dans ce sens, parce que Jésus prend la situation et la renverse complètement. Maintenant, il leur donne d'abord une leçon sur le fait de créer des traditions humaines et de les monter en commandement divin. Et ensuite, il tourne vers la foule et il enseigne une leçon énorme au sujet de ce qui compte. Est-ce que c'est l'extérieur qui est propre ou est-ce que c'est l'intérieur qui est propre, qui compte? Et vraiment, les pharisiens, si vous avez bien remarqué, ne disent plus rien. Ils n'ont rien à dire. Parce que d'un coup, Jésus anéantit le caractère essentiel de toute religion purement humaine. Nous allons donc voir ces deux points maintenant. La première chose que Jésus nous enseigne, et nous aussi nous avons besoin de cela, c'est que Dieu nous défend d'enseigner les traditions humaines comme s'il s'agissait des commandements de Dieu. Regardez, donc dans le verset 6 et 7, Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. » Dans notre péché, nous avons tendance, laissés à nous-mêmes, de vouloir inventer, de faire une religion en kit. Ah, moi je pense que, quand je parle avec les gens, ça c'est la phrase que j'entends le plus. Ah, moi je pense, au lieu de dire qu'est-ce que Dieu dit, c'est qu'est-ce que moi je pense. Or, c'est Dieu seul qui peut nous dire ce qui lui plaît et ce qu'il veut. Mais nous allons plus loin et dans les versets 8 et 9, ça devient pire. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Je vous donne un exemple. Dans notre pays, la plupart des gens sont d'arrière-plan catholique. Moi aussi, j'ai grandi dans l'Église catholique. Et dans l'Église catholique, il y a un enseignement très volumineux, très dominant, sur l'adoration de Marie. Si vous lisez des bouquins catholiques, vous allez trouver plein d'instructions, plein de consignes au sujet des prières à dire à Marie, sa place, son importance, comment il faut se confier à Marie. Maintenant, est-ce que vous saviez qu'il n'y a pas un seul mot là-dessus dans la Bible ? Dieu ne nous a rien commandé de tel par rapport à Marie. D'où est-ce que ça vient? Les catholiques nous informent bien que chez eux, il y a deux sources d'autorité, c'est-à-dire deux sources pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans la religion. Vous savez les deux sources? Une, la Bible, très bien, et la deuxième source s'appelle la tradition. Donc il y a une partie du dogme qui vient non pas de la Bible, mais de la tradition. Et ils avouent bel et bien que la Bible seule ne suffit pas. C'est la tradition. C'est ce que nous avons inventé au fil des siècles. Et rendez-vous compte qu'on commence en inventant quelque chose qui est à côté des commandements de Dieu. Mais après un moment, cette autre chose fait qu'on abandonne le commandement de Dieu. Par exemple, où est l'adoration de Jésus? Combien est-ce qu'on parle de se confier à Jésus comme sauveur dans l'Église catholique? Marie a pris une telle place que maintenant, la place du Christ seul sauveur a été annulée, obscurcie, cachée. Et c'est exactement ce que le Seigneur dit ici. Vous abandonnez le commandement de Dieu, ce qu'il faut faire, et vous tenez à la tradition des hommes. Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et verset 13, vous annulez ainsi la parole de Dieu. Il y a un verset dans la Bible, vous allez vous rappeler, les plus jeunes et les plus anciens, Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, personne ne va au Père que par moi. Mais dans la vie catholique, cette parole est annulée. Parce que le chemin vers Dieu pour les catholiques n'est pas Jésus. C'est Jésus un peu, mais beaucoup Marie, les saints, le trésor des saints et beaucoup d'autres choses. Par finir, ce que Dieu a donné, le don qu'il nous a donné, on le classe, on le case loin de nous, on l'annule. Et le commandement que Dieu nous impose, on est arrivé à l'oublier. Nous pourrions donner beaucoup d'exemples comme cela. Mais nous voyons que Jésus est en train de parler d'un phénomène que nous voyons nous tous les jours. Quelles sont les traditions chez vous? Les traditions qui ne sont pas peut-être dans la Bible. Il y a certaines manières d'adorer. Si vous ne faites pas ça, si vous ne bougez pas d'une telle manière, peut-être aussi vous bougez, ça dépend de l'Église. Alors vous êtes pieux ou pas pieux? Si vous vous rasez avant de venir à l'Église, dans certaines églises, vous êtes quelqu'un de pieux. Si vous vous pointez au culte non rasé, vous aimez moins le Seigneur. Vous voyez, il y a certains qui n'ont pas de problème avec... mais voilà, donc on a nos traditions, n'est-ce pas? Nos traditions qui commencent à prendre le dessus. Qu'est-ce Dieu il s'intéresse à quoi après tout? On oublie. Donc, Dieu nous défend de faire ainsi, mais il nous convient de nous demander, mais pourquoi est-ce que les gens comme nous, pourquoi est-ce que nous faisons ainsi? Pourquoi est-ce que nous n'acceptons pas simplement ce que Dieu nous dit, sans le couvrir, l'obscurcir par ce que nous inventons? Ça, c'est une bonne question. Et dans les paroles de Jésus, nous avons la réponse. Regardez le verset 6. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Il y a là un problème de cœur, n'est-ce pas? Voilà des gens qui ont le cœur très loin de Dieu. Et peut-être vous allez dire, mais ça veut dire quoi, le cœur loin de Dieu? Alors, le cœur, c'est quoi dans la Bible? Le cœur dans la Bible, c'est le siège de nos désirs. Ce que nous voulons vraiment. Donc ça, c'est le siège de ma personnalité. Parce que tout ce que je suis et je le fais parce que je veux. N'est-ce pas? Celui qui vole, celui qui cherche à s'enrichir, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Parce qu'il désire très fort la richesse matérielle. Celui qui tue ou qui calomnie, pourquoi il fait? Il fait cela parce qu'il veut faire mal à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Et donc, Jésus dit, ton cœur est très loin de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors testez-vous. Est-ce que mes désirs sont loin du Seigneur? Qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que, en venant ici, je veux la relation avec le Seigneur? J'ai envie du Dieu vivant, ce Dieu de grâce, ce Dieu qui envoie son Fils pour mourir, pour me pardonner gratuitement et me sauver et me ramener à lui, qui me fait don de sa miséricorde. Est-ce que je veux de lui ou bien est-ce que je viens parce que je suis là dans le corps, mais pas dans le cœur? Les désirs sont loin de tout ça. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas Dieu comme ça. Mais je suis là présent parce que mes parents ou mes amis me demandent d'être là. C'est ça, ils m'honorent des lèvres, donc les lèvres, c'est l'extérieur, sa bouche, oui, tu es célébré Seigneur, tu es grand, tu es ceci. Mais le cœur n'est pas en train de dire ça, c'est seulement les lèvres qui le disent. Un jour, pour vous montrer, un jour, il y avait un petit garçon qui n'arrêtait pas de se tenir sur sa chaise au dîner. Il n'avait que 4 ans, hein. Après tout, il pourrait tomber. Et son papa lui dit plusieurs fois, « Alors, assieds-toi, tu vas tomber, mange !» Et donc, il lui dit, « Ok, si tu te lèves encore, là, tu auras la fessée. » Donc, le petit garçon, il s'assoit, il croise les bras, et vous savez ce que ça veut dire, croiser les bras? Je ne suis pas content. Et il dit, « Papa, je suis assis en dehors, mais au-dedans, je suis debout. » Ah, très intéressant. Ce qu'on fait extérieurement n'est pas toujours ce qu'on est en train de faire intérieurement. Et c'est ça le problème. Jésus est en train d'attaquer, n'est-ce pas? On vient là, mais tel que nous sommes dans notre péché, notre cœur, naturellement, est loin de Dieu. Les pharisiens, les responsables religieux, mais pourquoi sont-ils tellement religieux? Je me suis demandé parfois comment certains pasteurs qui ne croient pas à la Bible, hein, il y en a, vous ne le saviez pas, mais il y en a, qui ne croient pas que Jésus est rédempteur, qui ne croient pas qu'il est ressuscité, pourquoi ils sont pasteurs? Pourquoi ils passent tout leur temps dans la religion? C'est mystérieux, n'est-ce pas? Mais donc, ce que nous faisons en dehors n'est pas toujours ce que nous sommes en train de faire au-dedans. Quelle est la conséquence d'une telle vie? Alors, si c'est les pharisiens ou si c'est moi et vous, si nous ne sommes pas convertis, la conséquence, selon Jésus, c'est que nous sommes hypocrites, premièrement. Et ça veut dire que je suis en train de porter un masque, de faire semblant. C'est vivre une vie hypocrite. Et Dieu nous considère comme des gens qui sont en train de vivre une vie hypocrite. Et Dieu n'accepte pas les hypocrites. Deuxièmement, Jésus nous dit dans ce passage que leur religion ne vaut rien. Regardez pour cela le verset 7. Le verset 7 dit « C'est en vain qu'ils me rendent un culte. » Le mot « en vain » signifie « pour moi, Dieu, ça ne vaut rien. » Mais vraiment rien. Et nous aussi, peut-être que nous avons rendu un culte à certains moments. Avant, si vous êtes chrétien avant votre conversion, vous avez rendu un culte, peut-être si vous étiez religieux, qui était en vain. Et donc, hypocrite, en vain, et puis Jésus dit qu'en fait, leur religion est une expression non pas de l'attachement à Dieu, mais d'une rébellion contre Dieu. Ils sont en train d'annuler le commandement de Dieu, d'annuler la parole de Dieu, détruire ce que Dieu dit par leur religion. Ça, c'est grave, n'est-ce pas? Alors, regardez autour de vous, regardez toutes les religions du monde, et ces religions, lorsqu'ils font élever les traditions humaines au-dessus de la parole de Dieu, ils tombent sur la condamnation de Dieu. Ne pensez jamais, chers amis, que être religieux, c'est une garantie d'être agréable à Dieu. Oh, loin de là. Oh, loin de là. Et ne croyez surtout pas cette folie que c'est la sincérité qui compte. Parce que la Bible dit que notre cœur est tortueux et que nous ne sommes pas sincères lorsque nous inventons des traditions comme ça. Nous avons nos raisons. Et une des raisons que je vous donne, hein, puis je vais m'avancer sur le dernier point, une des grandes raisons qu'on invente des traditions extérieures, c'est que c'est beaucoup plus facile de paraître juste. par ce que je fais en dehors. Laver les mains et être très juste parce que je les lave toujours, ça c'est facile. Mais aimer mon prochain, être humble dans mon cœur, ne pas désirer la femme d'autrui, ne pas envier celui qui est plus intelligent que moi ou plus fort que moi, alors ça c'est un peu plus difficile que laver mes mains. J'arrive pas à laver mon cœur et mes désirs de la même manière. Vous aussi? Eh bien voilà pourquoi nous montons nos traditions qui sont faciles à garder, parce que nous sommes pleins de justice de soi, n'est-ce pas? Bien, nous allons maintenant considérer le dernier point. Nous avons dit que Dieu nous défend de créer des traditions humaines, et comme si c'était des commandements de Dieu. Alors nous avons peut-être un peu de travail à faire, à nous examiner tous. Même en tant que chrétien évangélique, est-ce que nous faisons cela quelque part? Si nous n'allons pas nous examiner, on est en train de jouer en ce moment. Mais nous devons considérer, et il y a parfois des choses que nous devons changer. Mais maintenant, l'autre point, c'est que Jésus nous désabuse de nos fausses idées sur ce qui nous rend impurs, et donc impropres à sa présence. Rappelez-vous du wagon. Ok? Et qu'est-ce qui nous rend impossible de venir dans la présence de Dieu parce qu'il ne veut pas de nous dans cet état? Alors, les hommes pensent que ce qui les rend impurs vient de l'extérieur. Nous l'avons assez vu. Il y a des gens qui pensent que si je mange du porc, alors là, j'ai vachement, mais c'est pas bien. J'ai grandement désobéi à Dieu. Que là, je suis vraiment impropre à être avec Dieu. Mais Jésus nous dit qu'un aliment ne peut pas vous rendre impur. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça va dans le ventre, et puis après, c'est évacué. Et la partie de vous qui concerne Dieu, c'est la partie morale. C'est la partie qui est vraie ou faux. C'est la partie qui est humble ou orgueilleux. C'est la partie qui est généreux ou avare. C'est la partie qui est fidèle ou infidèle. C'est la partie de vous qui est tournée vers les autres et vers Dieu ou égoïste. C'est la partie de vous qui est docile devant Dieu et respectueux de sa majesté, son autorité. Ou c'est la partie de vous qui est arrogant, rebelle, têtu, et qui n'accepte pas que Dieu nous commande, nous dicte, nous informe et nous dirige. C'est la partie de vous qui est dépendant et confiant en Dieu, ou qui se méfie de Dieu et qui se confie beaucoup en vous-même. C'est la partie de vous qui veut s'exalter et être distinctif. Ça veut dire que tu ne veux pas être un bon chrétien, mais un meilleur chrétien que l'autre. Vous êtes dans la comparaison. C'est la partie de vous qui veut être quelque chose de grand. Et ça, c'est satanique. Parce que la grandeur appartient à Dieu seul. Tout cela, ce n'est pas dans le ventre, ce n'est pas dans ce que vous mangez, c'est dans le cœur. Je mange du porc, ça ne change en rien ma générosité ou mon égoïsme. Ok, donc Jésus montre que ce n'est pas ces choses extérieures. Je ne peux pas donc me purifier en mettant quelque chose dans ma bouche ou bien quelque chose sur ma peau. De l'eau bénite, n'est-ce pas? Faire le signe de la croix, mettre le pied droit, le premier en entrant dans un magasin, et pas le pied gauche. Enfin, toutes ces choses extérieures sont donc une valeur morale devant Dieu. Jésus nous dit au verset 21. Regardez le texte avec moi. Car c'est de dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Ah, mauvaises pensées. Si vous aviez un MP3 qui enregistrait toutes tes pensées cette semaine, est-ce que vous accepteriez qu'on le joue ici ce matin, devant tout le monde? Toutes vos pensées. Vos pensées envers vos collègues? Envers vos parents? Envers les hommes, les femmes? Envers la sexualité, envers les choses matérielles? Est-ce que vous aimeriez que les mauvaises pensées sortent? La Bible dit, Dieu dit, c'est ça qui vous rend incapable de venir dans mon wagon. C'est ça que je ne peux pas supporter. Deuxièmement, il dit les prostitutions. En fait, c'est un mot qui signifie plus ou moins l'immoralité sexuelle dans toutes ses formes. L'immoralité sexuelle. Traiter la sexualité comme un passe-temps, un sport, une source de plaisir récréatif. Traiter une femme comme un objet, un homme comme un objet pour mon plaisir. Tout cela est extrêmement désagréable à Dieu. Et la Bible dit que même c'est pour cela que la colère de Dieu tombe sur les fils des hommes. Éphésiens chapitre 5. Les vols, les patrons qui volent leurs employés un peu dans le salaire, les employés qui volent leur patron en prenant des choses au bureau, les clients qui volent le commerçant et le commerçant qui vole le client, et même les enfants qui volent de leurs parents. Ah oui, en chopant des choses, en chipant des choses à la maison. Le meurtre, et ça veut dire la haine dans le cœur pour quelqu'un, ça existe dans le cœur, n'est-ce pas? Dans le cœur, je ne peux pas supporter cette personne. Et ça vous rend impur. Impossible d'être dans la présence de Dieu lorsque ces choses sont vous. Des adultères, des infidélités, des cupidités, c'est-à-dire convoiter vous ce qui appartient aux autres. Ça, c'est une attitude dans votre cœur. Ah, moi, je veux je ne sais pas. La méchanceté, ça c'est le malice délibéré. La ruse, les tromperies, on trompe des gens, on trahit des gens. Ça vient du cœur, ça ne vient pas parce que tu as mal mangé ce matin. Ça vient du cœur, ça vient de ce que tu veux, toi. Le regard envieux, le blasphème, la négligence de Dieu, on s'en fiche de Dieu, ça vient d'où ça? Parce que tu as mangé le mauvais céréal le matin? Ça vient de ce que tu veux et ce que tu ne veux pas dans le très fond de ce que tu es toi-même. L'orgueil et la folie. La folie, c'est être complètement insensible sur le plan moral et spirituel. La folie, attention, la folie. Êtes-vous fou? Pour la Bible, ça veut dire insensible à ce que Dieu dit, ce qui est juste et injuste, son appel. Il y a beaucoup de gens pour qui ils sont devenus insensés. Aucune crainte de Dieu. Dieu vient, chers amis, le jugement vient. Dieu est un grand jeu. Il sera loué dans toutes les nations. Il sera honoré. Mais il y a des gens qui pensent que ça n'a aucune importance. Ça, c'est la folie. Toutes ces choses viennent du cœur et ça veut dire que votre problème et mon problème, c'est beaucoup plus grave que nous n'avions pensé, n'est-ce pas? Si c'était une question de comportement extérieur, d'acte extérieur, ce serait un peu facile à régler, n'est-ce pas? Donc voilà. J'ai un problème. J'aime pas les mémés. Je déteste toutes les mémés. Ok? Pas vrai, mais je vous donne une illustration. Et selon certains, donc on, Oui, c'est un mauvais comportement. Et Aristote dit qu'on devient juste en faisant des actes de justice. Ok, d'accord. Je vais à mon pasteur, je dis, ah, les grand-mères, ça me rend fou. Je les aime pas chaque fois que je les vois. Elles sont tellement lentes. Et elles sont démodées. Elles ne savent pas la bonne musique. Oh, ça m'énerve, les grand-mères. Il me dit, mon pasteur, qui s'appelle Pasteur Aristote, il me dit, ok, bon, chaque semaine, pendant 6 mois, tu vas aider 10 mémés à traverser la route. Ok? Et à force d'aller faire extérieurement la bonne chose, parce que là, je le fais avec mon corps, tu vas aimer les mémés. Ah oui. Sauf que ça ne marche pas, parce que quand je les aide, elles sont tellement lentes à traverser la rue que ça ne fait qu'augmenter ma colère avec les bébés, parce que je veux le progrès, je veux que ça aille vite, je veux ce que mon cœur veut. C'est pas ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc avec mon corps, je les aide, mais avec mon cœur, les désirs sont très contre. Et c'est ça le problème. Jésus dit donc à ces pharisiens, votre cœur est très loin de moi. Et le problème, c'est que tout ce que tu le fais à partir de ton cœur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu fais une chose? Parce que tu veux. C'est-à-dire à cause des désirs de ton cœur. Tu le fais très librement. Mais tu le fais toujours parce que tu le veux. Le seul problème, c'est que tu ne peux pas choisir ce que tu veux. Vous avez pensé à ça? Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas choisir ce que tu vas vouloir. Tu ne peux pas choisir ce que tu aimes. Regarde, voilà telle personne qui traverse la rue et je dis, décide d'aimer cette personne. Par un acte de ma volonté, je l'aime de tout mon cœur. Ah, oh, waouh! Ça, c'est merveilleux! Tu peux pas choisir ce que tu vas aimer. Ton amour est plus au fond de toi que tes choix. Tu peux pas choisir d'aimer. Ce que tu aimes détermine ce que tu choisis. Alors, nous avons donc un grave problème. Et si je vous ai perdu là, c'est pas grave. Restez avec moi pour le reste parce que j'ai presque fini. Dans l'enseignement de Jésus, il veut nous mettre tous devant nous-mêmes. Ça nous concerne. Et franchement, si ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça vous touche nulle part, ben vous avez besoin de relire le passage. N'est-ce pas? Parce que ça, il nous décrit le cœur est tortueux, incurable par nous-mêmes. Et ça veut dire que je ne peux pas, tu ne peux pas te changer pour aimer Dieu. Il faut que Dieu, parce qu'il t'aime, il vienne vers toi et il te change. N'est-ce pas? Il faut que tu sois changé non pas par toi, mais par Dieu. Il y avait un garagiste un jour qui, je viens récupérer ma voiture et il me tape sur l'épaule et il oublie que sa main est complètement remplie d'huile et d'essence et de machin. Il m'a souillé le vêtement. Et donc maintenant, il va réparer ça. Mais, oh oui, oh, et chaque fois qu'il me touche, il le rend la situation pire. Parce qu'il essaie de réparer la situation avec quelque chose qui est souillé. Et lorsque vous essayez de changer votre cœur, vous essayez de changer un cœur souillé avec un cœur par un cœur souillé. Où est-ce que ça nous met? Ça nous met à genoux devant la croix du Christ où nous devons dire, Seigneur Jésus, si vous êtes non-croyant, hein, je ne t'aime pas, je n'aime pas Dieu, mon cœur, là, est loin, mes désirs sont loin. Si je devais aimer mon Dieu, quelque chose est tordu en moi, mais vraiment tordu. Et je ne peux pas le changer moi-même. J'ai besoin de la nouvelle naissance qui vient d'en haut. Cette nouvelle naissance est coûteuse. Parce que pour pouvoir nous changer ce cœur, pour qu'il désire Dieu, Christ a dû prendre cette impureté que vous avez dans votre vie et supporter sa peine à la croix. Il a dû souffrir comme si c'était lui qui avait tout fait. Ce changement de cœur est coûteux, mais ce changement de cœur est miraculeux parce que seulement Dieu, l'Esprit, peut agir en vous pour complètement changer et c'est mystérieux. On ne sait pas comment Dieu le fait, c'est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, où il va, mais on voit qu'il a été là parce que tout est bousculé. Et Dieu, quand il change ton cœur, c'est comme ça. Il vient faire pour toi ce que tu ne veux pas faire. Et troisièmement, quand l'Esprit change notre cœur, c'est toujours en relation avec l'Évangile. Alors, écoutez bien. Comment est-ce que quelqu'un qui n'aime pas Dieu, qui n'est pas attiré vers Dieu, maintenant il devient attiré vers Dieu? Dieu lui plaît. C'est l'Évangile. Dans la bonne nouvelle de Christ, Dieu se révèle à vous. Vous avez toujours pensé à lui comme un législateur, quelqu'un qui n'est pas attirant. Oh, Dieu veut ceci, il veut cela. Et Dieu se révèle dans toute sa bonté. Il vous aime. Il pend sur une croix pour toi. Il prend ta peine, toute ta culpabilité sur lui et il efface ça. Et cette nouvelle que Dieu fait pour vous, tout, et qu'il reçoit, qu'il vous reçoit, si vous croyez, gratuitement, pleinement, parce qu'il vous aime, même tel que vous êtes, même lorsque vous avez fait de lui aucun cas. Un Dieu comme ça, qui vous aime. Et Jésus dit, personne, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et lorsque vous voyez, je me souviens, vous allez vous souvenir si vous êtes croyant, le jour que j'ai compris ça, que Dieu avait pris toute ma saleté, mon impureté sur lui. Pourquoi lui? Pourquoi lui doit-il souffrir pour cela? Parce qu'il veut me prendre à lui. Il veut me rendre pur. Il veut que je sois dans son wagon, malgré tout ce que j'ai été contre lui. Quand j'ai compris qu'il est un Dieu rempli de grâce, rempli de gentillesse, rempli d'amour, et l'Esprit m'a ouvert les yeux, alors mon cœur a connu un changement dans son penchant. Il s'est penché vers Dieu. Il a commencé à désirer Dieu. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que vous ne pouvez pas ouvrir les yeux à ce Sauveur, à ce Dieu bon, qui n'est pas un Dieu qui demande simplement. Et même ce qu'il demande, c'est très sage et très bon. Il veut vous amener dans les voies d'amour et de fidélité, d'intégrité, de noblesse. Mais c'est un Dieu qui donne, qui se donne. Est-ce qu'on ne peut pas aimer un Dieu comme cela? Que Dieu vous ouvre le cœur et vous tourne le cœur pour que la foi en Christ ne soit pas simplement un appel où les parents et l'Église veuillent que je devienne chrétienne. Non, ça ne va jamais marcher comme ça. Il faut que le Christ lui-même vienne vers vous, souverain comme il est. Il faut qu'il se montre à vous. Comme il s'est montré à Paul, lorsqu'il dit « Saul, Saul, il est dur pour toi de regimber contre les écuyers. Je t'appelle à moi. T'as voulu tuer tous mes disciples, mais je t'aime quand même. » Et lorsque le Christ vient vers nous et nous montre qui il est, et qu'il nous appelle, qu'il vous appelle maintenant à lui, rien n'est plus grand. Et vous allez devenir propre par Christ, par son sang. Et vous serez admis et même amené dans le wagon de Dieu. Parce que Christ nous a purifiés pour toujours. Nous allons chanter. c'est le dernier